Merci, j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Suzanne et je vais revenir un petit peu sur Hindawi si j'ai le temps. Mais ce que je veux faire ce matin, c'est partager avec vous des inquiétudes. Parce que j'ai l'impression que petit à petit, depuis pas mal d'années, les chercheurs et les bibliothécaires se font évacuer du système de publication. Je pense que c'est un phénomène sur lequel il faut se pencher et qu'il faut analyser et essayer de trouver des remèdes, évidemment. Alors, le pire, le début, ça a été les bouquets. Parce que, avec les bouquets, les chercheurs n'ont absolument plus leur mot à dire sur quelles sont les revues que l'on choisit ou pas. Et ils n'ont pas beaucoup réagi. Bon. Mais maintenant, les choses empirent beaucoup. Parce que, depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance énorme. Et le système, à mon avis, est en train de bifurquer. C'est-à-dire, il y a d'un côté la diffusion des connaissances, c'est une chose très importante, qui permet à chacun d'entre nous de faire connaître à tout le monde, au monde entier, immédiatement, les travaux qu'il a faits, et qui n'est soumis à aucune règle. Et on peut mettre un papier sur Archive ou sur RAD, il n'y a pratiquement aucun contrôle. Et ça, c'est très bien. Mais par ailleurs, il y a la responsabilité que nous avons, nous, les chercheurs, de constituer un corpus de savoir valider que nos successeurs puissent utiliser, enfin nos contemporains et nos successeurs. Les successeurs, pour moi, c'est très important, étant donné mon âge, ça devient de plus en plus important. Donc, et là-dessus, j'ai l'impression que petit à petit, on est en train de faire comme si les deux choses se confondaient. Et ça, je pense que c'est réellement dramatique. Et je pense que les seules personnes qui peuvent réagir là-dessus, c'est nous, les chercheurs, avec l'aide des bibliothécaires. Si on regarde l'énorme littérature qu'il y a sur l'open access, énorme, peut-être pas un mot assez fort, il y a une quantité de répétition qui est du même ordre de grandeur, mais on ne voit pratiquement jamais le mot bibliothèque, ou bibliothèque, pratiquement jamais. On dirait que déjà, dans l'esprit des gens qui parlent de ça, ça n'existe plus, bibliothèque. Et effectivement, il y a une dérive. On se dit, dans 50 ans, la connaissance sera gérée entièrement sur Internet, les gens auront accès à des bases de données, ils auront du data mining à profusion, évidemment, pour tout ça, il faudra payer, mais oublions. Et où seront les bibliothèques là-dedans? Elles seront peut-être encore des endroits où on gardera quelques livres, parce que, après tout, dans 50 ans, les gens n'ont pas complètement oublié l'existence des livres. Mais ça, je pense que c'est réellement dramatique, parce que du point de vue scientifique, je pense que c'est tout simplement catastrophique. Parce que la science qui existera à ce moment-là, ce sera une espèce de chaos, enfin, si on laisse faire, dans lequel l'évaluation par la bibliométrie sera triomphante, dans lequel il n'y aura plus moyen de trouver quels sont les articles intéressants. Je ne vois pas du tout comment on pourra faire. Peut-être que c'est du monde d'imagination, mais en tout cas, je pense que c'est à nous, maintenant, d'essayer de réfléchir à ce qui se passera, dans, peut-être pas dans 50 ans, mais au moins dans 15 ans. Et on a entendu hier à quel point c'était difficile de faire réagir les chercheurs. Moi, je dirais qu'on ne consulte pas beaucoup, mais il y a certainement une raison, à mon avis, pour laquelle c'est difficile de les faire réagir, c'est qu'on ne leur offre pas d'alternative. Il y a un système de publication, qui est celui qu'on a décrit hier aujourd'hui, avec tous ses défauts, avec ses Elsevier, etc. Et on ne dit pas aux chercheurs, mais vous savez, il y a autre chose que l'on pourrait faire. Il y a différentes options, d'ailleurs, ce autre chose n'est pas forcément unique. Il y a le Diamond Open Access de Marie, mais là-dessus, on ne fait aucune publicité. Là-dessus, tout d'un coup, on a l'impression que dans les laboratoires, on ne dit pas aux jeunes chercheurs, écoutez, bon, très bien, vous êtes un jeune chercheur, vous devez vous faire connaître, vous devez publier dans le meilleur journal possible, parce que c'est comme ça que ça marche pour le moment, mais regardez quand même un petit peu, il y a des tas de revues dont le rapport qualité-prix est très différent, et dont la qualité scientifique est à peu près la même. Je n'ai jamais entendu dire ça dans un laboratoire. Donc il faudrait faire vraiment une publicité très forte auprès des jeunes pour leur dire, avant de publier, réfléchissez. On ne vous interdit à aucun moment de publier chez qui que ce soit. Parce que vous êtes un jeune chercheur, il faut que vous fassiez votre place, il faut que vous fassiez connaître. Donc, évidemment, vous publiez dans le journal qui est le meilleur pour vous. Mais dans tous les journaux qui sont également bons pour vous, regardez quand même un petit peu. Ils ne sont pas tous équivalents du point de vue éthique, du point de vue économique. Et ça, ça n'existe pas. Quand je m'occupais du RNDM, il y a beaucoup d'années, on avait essayé de sensibiliser les gens dans les bibliothèques. Enfin, je rends hommage au RNDM. Le RNDM avait essayé de sensibiliser les gens dans les bibliothèques en mettant simplement le prix des revues dans les présentoirs. Mais ça fait 15 ans que le RNDM essaie de sensibiliser les chercheurs en maths, qui sont parmi les plus sensibles, je crois quand même, et ça ne marche pas très bien. Alors, il faut faire quelque chose. Je pense que faire quelque chose, ça veut dire maintenant, il faut faire un effort intellectuel et essayer de proposer un ou des modèles alternatifs complets. C'est-à-dire que, premièrement, on s'intéresse à des modèles alternatifs économiques. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut expliquer aux gens que il y a la diffusion des phares et il y a la publication de l'autre. Et la publication, ce n'est pas seulement publier bon marché. Ce n'est pas seulement publier en Diamond. C'est certainement pas publier avec des APC, on s'en est tous d'accord. Mais même Diamond, ça ne suffit pas. Parce que c'est un modèle économique tout à fait louable. D'abord, je pense qu'il y en a d'autres, je vais en proposer un. Et ensuite, ça ne résout pas tous les problèmes. Parce que, par exemple, il faut le traitement des droits d'auteur. Un traitement correct des droits d'auteur, style Creative Commons. Il faut aussi un traitement correct des métadonnées. Parce que si on veut que les articles soient visibles dans 30 ans, il faut que les métadonnées satisfassent des critères. Donc, un journal, ça doit être une entité qui satisfait toute une liste de critères. Donc j'ai proposé, il y a déjà un certain temps, que l'on fasse une charte de bonnes pratiques éditoriales, que j'ai proposé à Berkeley il y a 4 ans, et que j'ai reproposé à la BSN 7, à laquelle j'appartiens, qui est en train de le faire. Donc la BSN 7, c'est la partie de la bibliothèque scientifique numérique qui s'occupe de l'édition électronique. Et la BSN 7 a créé une charte des bonnes pratiques qui est extrêmement complète. Je vous conseille d'aller voir sur le site. Elle contient non seulement tous les aspects dont je viens de parler, mais beaucoup d'autres choses. Il y a évidemment le traitement des manuscrits, il y a s'assurer que le traitement scientifique des manuscrits est correct. Il y a s'assurer, il y a tout un tas de choses très techniques qui sont dedans, parce que ça a été fait par des gens très compétents. Il y a 55 articles, je crois. C'est-à-dire qu'on envoie aux revues qui sont intéressées à obtenir le label de bonne pratique de la bibliothèque scientifique numérique, un questionnaire. Et si ma mémoire ne me trompe pas, la revue doit répondre à 55 questions, dont certaines sont, comme j'ai dit, extrêmement techniques. Pour les métadonnées, est-ce que vous utilisez tel protocole, qu'est-ce que vous faites exactement? Et ça, ce sont des choses que les éditeurs commerciaux font, évidemment, mais pas d'une façon que nous sachions. Et d'autre part, ce que je propose, c'est que l'on fasse une alternative absolument visible. C'est-à-dire que cette charte de bonne pratique, ce soit quelque chose sur lequel on puisse faire une publicité d'enfer auprès des chercheurs, spécialement les jeunes chercheurs. Et évidemment, ça n'exclut pas, il y a aussi un volet économique, évidemment, je ne l'ai pas dit, il y a non seulement le copyright, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de bouquet, il n'y a rien de ce genre, évidemment. Par contre, il peut y avoir des rabais, si on prend 10 revues au lieu de 3, ça coûte moins cher par revue, enfin, il peut y avoir des modèles économiques tout à fait différents de celui des bundles, et qui permettent quand même à l'éditeur de vendre un peu plus de revues s'il en a envie. Donc, ce que je pense important, c'est de faire un... On peut appeler ça n'importe comment, charte de bonne pratique, alternative, etc. La charte de bonne pratique, ça me plaît mieux, parce que ça laisse ouvert. Je vous ai dit, il n'y a pas forcément un seul modèle qui satisfasse les chartes de bonne pratique. Il peut y avoir différents modèles. Bon, donc si on fait ça, je pense qu'on pourra faire bouger peut-être un peu plus les chercheurs. Maintenant, il y a un autre aspect, le niveau bibliothèque. Et quand je dis bibliothèque, je ne parle pas du RMBM, parce que le RMBM, c'est une espèce de symbiose entre les mathématiciens et les bibliothécaires qui fait que les critiques que je vais faire au système des bibliothèques maintenant ne s'appliquent absolument pas. Cependant, je suis obligé de dire des choses un peu désagréables. Je suis obligé de dire, par exemple, que j'appartiens donc à la BSN, dans laquelle il y a en tout, si on rassemble tout le monde, l'Assemblée Générale, il y a un peu plus de 50 personnes, dans laquelle il y a 3 chercheurs. Il y a Didier Pellapra de l'INSERM, il y a Thierry Gouche de la CDMADOC et moi. Bon, il y a un an et demi, je crois, j'ai écrit une lettre aux responsables de la BSN pour leur dire, écoutez, vous faites un comité des acquisitions, je ne sais plus comment ça s'appelle, un peu pour l'ISTEX, qui décide de tous les endroits où on dépense de l'argent, parce que la BSN 7, évidemment, ne s'occupe pas d'argent, c'est pour ça qu'on peut s'y exprimer. Mais donc, il y a la partie vraiment où on parle d'argent de la BSN, qui est la partie acquisition, BSN 1, qui dit, vous devriez avoir un conseil scientifique dans lequel il y a des scientifiques. On a été 3 à signer cette lettre, il n'a jamais eu de réponse. Je rappelle aussi pour l'anecdote que lorsque, hier on a entendu, j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Malotto, parce que c'est vrai qu'il faut remercier Coutrin du travail qui est fait, mais cependant, pendant les négociations avec Springer, on a rigolé, je parle, il se trouve qu'à un moment j'ai été amené par Odile à participer aux négociations. Et à un moment, Mme Laguin, la négociatrice principale de Springer, a dit nous vous proposons une augmentation de 4% par an, et c'est très généreux parce que l'offre scientifique que nous faisons augmente de 8%. Donc vous voyez bien, on vous fait un cadeau. Bon, donc je vous ai dit, mais oui, je sais que vous venez d'acheter Indaoui, et Indaoui, ça ne vaut rien du tout, scientifiquement, et donc c'est compris dans vos 8%, donc ne vous moquez pas de nous. Alors, il se trouve que je sais, de source absolument sûre, que ça a eu un effet assez dévastateur chez Springer, cette phrase. Bon. Donc ils ont eu un directeur adjoint, un vice-président, je crois, qui a été chargé d'augmenter la qualité scientifique de l'IDAO. Je lui souhaite du plaisir. Donc, tout ça pour dire que si on veut mobiliser les chercheurs, il ne suffit pas de les mobiliser en leur disant ce qu'ils devraient faire, publier dans les journaux qui satisfont les chartes de bonne pratique, etc. Mais aussi les impliquer plus. Et en particulier, dans les négociations, il est évident que dans les négociations, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent la science. Et je trouve que c'est très désolant que les gens qui connaissent la science et qui veulent bien passer du temps, et qui nous mettent sur le terrain où nous sommes forts, parce que nous ne sommes pas des avocats, nous n'avons pas les juristes d'Elsevier, mais là où nous sommes forts, c'est sur le terrain de la science. Nous pouvons dire à Elsevier, votre revue-là, c'est nul. Bon, comme un peu comme j'ai dit à Springer, je ne l'ai pas dit dans ces termes, évidemment, j'ai dit un peu plus poliment, mais bon. Et là, ils écoutent, croyez-moi, ils écoutent, y compris Elsevier. Parce que là, ils sont un peu terrorisés. Et de même, il y a eu à l'époque des négociations en 2012, il y avait d'une part le boycott Elsevier, d'autre part la pétition lancée par les gens de Grenoble sur les négociations de Springer. Et je peux vous dire que chez Springer, ils étaient terrorisés. Donc on a obtenu à ce moment-là qu'il y ait une négociation spéciale pour les mathématiques, entre Springer et les mathématiques françaises, pour défaire le modèle des bouquets en ce qui concerne les mathématiques. Et M. Colcanap, qui était présent, parce que la négociation se déroulait très mal avec Springer, donc il était venu en personne, avait été d'accord. Mais par la suite, aucune suite n'a été donnée. Donc je propose l'idée peut-être très audacieuse qu'au moment où il y a des négociations avec des grands éditeurs, on pense peut-être à faire des séparations par discipline. Parce qu'il est évident que les intérêts disciplinaires des mathématiciens et des gens des sciences de la vie, bon, on est tous des scientifiques, mais on n'a pas du tout la même gestion de notre documentation. Du tout. Alors peut-être qu'il faudrait, dans les négociations avec les éditeurs, en tenir compte. Lorsque l'on admet qu'on va négocier pareil pour les sciences de la vie, pour les SHS et pour les mathématiques, on fait un cadeau aux éditeurs. Lorsque l'on admet que l'on va négocier sans avoir des scientifiques aux côtés des négociateurs, on fait un cadeau aux éditeurs. Donc il faut bien réfléchir à ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que la relation devait être idéale, mais nous, au NBM, on a pris l'habitude, depuis maintenant, je pense, à peu près 40 ans, que les bibliothécaires et les mathématiciens travaillent ensemble sur tous les sujets. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans cette discipline. Bon, même si ça prend 30 ans, ça n'a pas pris 30 ans, ça a pris peut-être 10 ans. Bon, bref, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, je pense que pour la documentation scientifique, c'est un enjeu essentiel. Il faut que nous œuvrions à créer de nouveaux modèles. Le modèle qu'on nous propose, les APC, c'est un modèle nocif. Le modèle qui est basé sur les impact facteurs, c'est un modèle empoisonné. Mais nous n'avons pas, nous, les scientifiques, réfléchi avec les bibliothécaires à un modèle vraiment alternatif. Donc je reviens pour terminer, je crois que j'ai à peu près fini mon temps, je reviens pour terminer sur le problème du financement, parce que c'est le problème sur lequel tout le monde parle. Je dis, il y a un problème scientifique énorme avec l'évaluation par la bibliométrie, d'une part, et le fait que maintenant l'économie de la documentation devient de plus en plus une économie supply side. À l'arrière. C'est-à-dire, on met sur le marché. Je dis, non, une économie saine de la science, encore une fois, ça a été dit, la connaissance scientifique n'est pas un objet de marchandise, n'est pas une marchandise, mais comment fait-on ? Ben, il faut que les utilisateurs puissent avoir leur mot à dire. C'est-à-dire, il est très bien que l'on puisse faire tout du point de vue de la diffusion, que l'on puisse imaginer des formules nouvelles, comme ce qui a été rappelé par Serge Bourin hier, le modèle de Cachan, l'IPAL, IPOL, un modèle qui est quelque part entre une collaboration de volume. Bon, c'est excellent qu'on puisse faire des choses comme ça. Mais par ailleurs, nous avons une responsabilité vis-à-vis des années futures. Qu'est-ce qui restera de IPOL dans 30 ans ? Qu'est-ce qui restera ? Bon, peut-être quelque chose, mais nous ne le savons pas encore. Et c'est à nous de l'inventer. Donc, comment faire pour assurer la pérennité et la qualité ? Parce que avec toutes ces possibilités, on voit bien que le système de d'évaluation par les pairs, ça ne suffit plus. Ça reste absolument nécessaire qu'il y ait un scientifique qui regarde un article et qui dise « oui, c'est bon ». Mais ça ne suffit plus, parce que c'est détourné. C'est détourné, on l'a entendu par ce que disait Suzanne tout à l'heure. Mais ça peut être détourné de mille et une autres manières. Ce n'est plus un système suffisant. Donc il faut qu'il y ait une certaine évaluation par les consommateurs. Alors ça peut être le open referring, comme on l'a dit, encore que moi j'ai un certain nombre de doutes là-dessus, parce que je pense que les commentaires se concentreront sur des articles intéressants et que les articles qui sont moyennement intéressants se retrouveront avec un grand blanc. Bon, j'ai des doutes, je ne vais pas dire, bon, j'ai des doutes. Je pense par contre qu'il y a un modèle qui peut fonctionner, qui utilise les bibliothèques intelligemment, en changeant un petit peu leur mission, c'est de dire qu'il est indispensable que les bibliothèques représentant les utilisateurs jouent un rôle dans le financement des revues. Ça signifie qu'au lieu de faire des listes de revues pirates, de predatory publishers ou de rogue publishers comme on a, je pense que ça, c'est pas bon, personnellement. Parce que c'est trop facile, les revues changent de nom, et puis de toute façon, personne n'a allé les lire. Je pense que collectivement, nous pourrions faire une revue, une liste des revues que l'on peut soutenir. Et ça ne veut pas du tout dire, là, quand je dis ça, les gens me regardent en disant « Ah oui, mais tu veux soutenir un Alzheimer, etc. » Non, c'est une liste qui contiendra des centaines de titres. Simplement, ce sera les revues qui font bien leur travail. Donc on est sûr que le travail est assuré, qu'ils respectent une charte de bonne pratique. Alors on dit aux jeunes, vous pouvez publier dans n'importe laquelle de ces revues. Bon, après, là-dedans, vous optimisez pour votre carrière, c'est votre problème. Mais voilà les revues dans lesquelles vous pourriez et devriez publier. En fait, c'est assez facile à faire, un livre, comme ça. Bon, et cela étant, parmi ces revues, il faut que certaines qui sont plus intéressantes que les autres puissent être financées par les utilisateurs, au moins en partie. Donc, ce que je propose, c'est de revenir un petit peu au système des abonnements, mais sous une forme un peu moderne, sous la forme de crowdfunding, c'est-à-dire que des ensembles de bibliothèques, bon, typiquement le RMM en France, a fait ça grâce au CNRS, pour les revues de la European Mathematical Society et pour la SMF, et bientôt pour d'autres. C'est un système, bon là, c'est pas du crowdfunding, parce que c'est financé par le CNRS, mais ça, normalement, dans un monde normal, ça devrait être du crowdfunding des universités françaises, par exemple. Ça devrait être ça. Bon, ça ne l'est pas, parce que les universités en couperont, etc. Mais grâce au CNRS, on a pu surmonter cet obstacle-là, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que les consortias de librairies, y compris internationaux, pourquoi pas, se mettre d'accord pour dire nous, on finance tel et tel et tel et tel et tel journal parce que nous pensons qu'il fait bien son travail, que c'est intéressant pour les chercheurs, etc. Et si vous avez 40 librairies ou 50 bibliothèques qui font ça, ça commence à devenir une somme substantielle. Chacun n'est pas obligé de donner des milliers d'euros. Si chacun donne quelques centaines d'euros, ça commence à pouvoir faire tourner une revue. Bon, au moins l'aider. Et après, elle va chercher du financement peut-être ailleurs. Bon. Mais on peut imaginer un système de financement où il y a plusieurs pieds. Même une université qui est très ambitieuse, mettons Pierre et Marie Curie, pour en prendre une au hasard, elle peut financer sa propre revue. Là, elle n'a pas d'argent, c'est pas... Mais les universités américaines font ça. Donc une université qui veut absolument se rendre très visible dans le domaine de la mathématique, par exemple Duke, lance sa propre revue. Bon, ben, j'ai presque fini. Je voulais encore dire un mot méchant sur... Comment éviter, justement, pour éviter l'évaluation bibliométrique, on a aussi besoin du soutien des chercheurs dans les bibliothèques. C'est-à-dire, remplacer l'évaluation bibliométrique par l'évaluation sérieuse, c'est un travail qui revient aux chercheurs. Parce qu'on nous dit que c'est très mal l'évaluation bibliométrique, mais si elle existe, c'est à cause de notre paresse. C'est parce que dans les comités de sélection, les gens préfèrent dire « Ah, il a publié dans Duke, ah, il a publié dans Internationales », plutôt que de lire l'article. La seule bonne réponse dans ce cas-là, si vous êtes dans un autre comité de sélection, c'est de dire « Et tu as lu l'article ?» Donc, là aussi, je veux dire, il ne faut pas penser que les chercheurs sont tout blancs et les éditeurs, les publishers sont tout noirs. Les chercheurs ont leur manque aussi. Alors, je regarde Marie, je vois un manque de temps. Oui, d'accord. Mais tout le monde manque de temps. Et je pense que là, il y a un enjeu vraiment important parce que, comme je disais au début, je crois que le système est en train de bifurquer. Et que si nous ne faisons rien, nous risquons beaucoup de nous retrouver dans 10 ou 15 ans avec un système dont nous ne voulons absolument pas. C'est ce qui est arrivé aux gens des sciences de la vie, qui ne veulent plus du système qu'ils ont, mais qui sont quand même totalement prisonniers. Parce que leur système d'évaluation est fondé sur la bibliométrie, parce que... Mais eux, ils sont tellement nombreux que peut-être qu'il faut faire des études statistiques. Nous, mathématiciens, nous sommes beaucoup moins nombreux. Alors, je termine avec la phrase de Churchill que j'aime beaucoup. Les seules statistiques auxquelles on peut faire confiance sont pour ça qu'on a falsifié soi-même. Je vous remercie.